Surpris par la nuit.
Feuilleton Dogon, troisième partie, une émission d'Antonin Potoski, réalisée par Pierre Villers.
Mais si tu as perdu cigarette, faut pas chercher parce que
c'est du poison.
Tu sais, c'est pas que.
Non, j'ai déjà payé, après je paierai pas.
Voilà, donc tu alors, finis ces paquets et puis le reste des sous, faut mettre dans autre chose que dans la cigarette. Tu peux acheter 2-3 poignées de mille et on peut faire la bouillie. Madame peut faire la bouillie pour les enfants. Donc c'est plus intéressant que de voir la fumée monter au ciel. Et après, tu ne la rencontres pas, cette fumée. Tu es à l'écoute, s'il te plaît. Tégué, quand quelque chose, il l'aime pas, il n'écoute pas. Il est tout le temps comme ça. Les conseils, qui, ça ne lui plaît pas, il ne répond pas. Tégué, c'est ça. Sinon, il y a eu beaucoup de questions plus compliquées. Tu as trouvé la solution. Il n'y a pas un problème sans solution.
Ça va, vous?
Non, parle pas. C'est avec moi que tu dois... t'adresser pour... Non.
Vous êtes français?
Ouais. Non, ça c'est pas important. Ils savent qu'ils sont français, ça ne change rien. Écoute.
Non, on est ensemble.
Non, non. Oui, mais moi aussi, je suis avec l'ensemble.
Je suis pas méchant comme ça.
Voilà. Donc quand je parle de la fumée de ta cigarette, tu t'énerves vite. C'est pas comme ça, mon frère. Tu me réponds quand même. Il faut que je cherche que c'est avec toi que je parle.
Je vois d'abord.
Hein? Non, on parle pas de politique maintenant. Il répond à ma question.
Non, politique, je peux faire. Hein. Il y a même pas de problème. Hier à minuit.
Voilà.
J'ai mon papier donc, avec moi, tout de suite. Je peux faire, hein. Tout de suite, je mets des campagnes. Tout de suite, j'ai droit.
Voilà.
Le Mali connaît.
Voilà ce qui lui plaît.
Voilà.
Il n'a pas répondu à l'histoire de la cigarette. Quand on parle de politique, il se lève et il oublie tout.
Tous les deux, vous êtes inséparables. Vous vous connaissez depuis très très longtemps.
Ah oui. Nous, Monsieur Kenney, il a été fait 2 ans et demi en France. Il est parti plusieurs reprises. Et il a travaillé avec les journalistes. Moi, je n'ai jamais eu cette chance. Mais quand même, j'ai beaucoup travaillé avec, si vous voulez, comme une fille, elle s'appelle Anne Doké. J'ai intervenu un peu côté masque, Dogon et tout ça. Et puis d'autres gens, j'ai travaillé dans l'agence des voyages en Europe et tout ça. Et puis j'ai rencontré d'autres entrepôts aussi. Voilà. On aime beaucoup notre culture, si vous voulez, et votre culture aussi.
Gomdoé, Zorogana Mia. Gomdoé, Delaé, Gomdoé, Zorogana Mia. Delaïana Goyo, Aé Goyo, Aé Goyo, Delaïana Goyo.
Delaïana Goyo, Aé Goyo, Delaïana Goyo, Delaïana Goyo.
Samedi, nous assistons encore à deux petits bouts de funérailles. Pendant la dernière danse, Anne Doké note que les danseurs qui sont sous les masques ne connaissent pas les pas. Ils suivent approximativement le premier d'entre eux. Ils ne sont pas de yoga ou ne sont pas initiés. D'autres touristes arrivent, les danses sont molles, on ne distribue pas de bière, ils repartent. Les masques sont comme de grands brûlés, les danseurs sont enrobés de bandelettes de cotonnade blanche avec juste une fente pour les yeux et une antenne de cordes roses sur le haut de la tête qui retombe vers l'avant comme un crochet mou, un peu comme d'antiques Teletubbies, pardon les ethnologues, vraiment troublant et beau. Emmanuel explique que lors des vraies funérailles, la foule qui entoure les danseurs est tellement dense qu'on doit repousser le public pour faire un peu d'espace aux danseurs. Devant nous, la foule est très clairsemée. Un villageois ouvre un paquet de bonbons et les envoie sur la place publique. Les gens se bousculent pour les attraper. Cela crée un semblant de cohue dans le cadre de la caméra. Anne Doquet a raté le début des funérailles parce que ses amis de la mairie de Sanga n'ont pas été informés de leur date exacte. Le village de Yuga est pourtant sur la commune de Sanga. Pourquoi ces cérémonies se font-elles en douce? Pourquoi ni la mairie ni les villages alentours n'ont-ils été mis au courant? Des Dogons d'autres villages racontent déjà que les intermédiaires de Sanga ont exporté les funérailles à Yuga pour dissimuler la ponction qu'ils auraient faite à leur financement. Un ressortissant du plateau me dit « Les gens de Yuga baissent le regard devant moi, tout le monde a honte de ce qui se passe. » Finalement, les gens de Yuga, le village sacré, l'origine des masques, ont peut-être trahi la population de Sanga en donnant leur caution au détournement des funérailles, mais en s'impliquant si peu, en faisant sous-traiter les danses à des gens de la plaine, comme le dit Emmanuel, et en prêtant les masques à de faux danseurs, ils ont roulé les Français et ils ont évité de brader leur tradition. Les funérailles de Germaine Dieterlin n'ont pas eu lieu. Amaigere dit même, quand je le revois à Paris, « C'est sûr, un jour, on refera les funérailles de Germaine Dieterlin comme il faut. » Si j'étais journaliste, je continuerais à me renseigner à Paris pour dénouer les fils de cette histoire, l'organisation des funérailles, la décision du film, la succession de Jean Rouch, les intérêts, les jalousies, les tromperies sur la falaise. Mais il ne faut pas forcément démystifier toutes les histoires. L'histoire de Dieterlin, de Rouch, de Griol, de la France et des Dogons, elle est plutôt réussie. C'est bien d'y croire un peu. Et puis, à notre arrivée à Tirelli, une femme vient tout juste de mourir. L'intensité, la spontanéité de la danse qui est aussitôt organisée et l'enthousiasme qu'elle suscite contrastent avec la mollesse des funérailles de Germaine Dieterlin et donnent de l'ampleur à la comparaison qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Le crieur public annonce la nouvelle, debout sur un rocher en haut du village. Sa voix résonne contre la falaise et des dizaines de coups de feu sont tirés dans la nuit. Les salves s'enchaînent sans interruption pendant de longues minutes.
Nous avons quitté Yuga pour le village de Tirelli. C'est le village d'Emmanuel Sai qui voyage avec nous. Et c'est aussi le village où Amaigere Dolo a choisi de travailler avec les potières que nous irons voir demain. Quand on est arrivé, on s'est reposé sur la terrasse chez Emmanuel. Et c'était au crépuscule. Et on a levé les yeux, on a entendu une sorte de froissement d'ailes très, très, très ténu, très discret, mais multiplié par milliers, par centaines de milliers, par millions, par milliards. Un nuage entier qui a duré une trentaine de minutes de sauterelles qui tombaient du ciel et qui sont passées au ras du village, au ras du toit des cases, au ras de nos têtes. Certaines sont tombées à côté de nous. Les hommes qui étaient avec nous les ont attrapées. Ils leur ont retiré les pattes. On les a fait griller. Et nous allons nous endormir ce soir avec, pour la première fois de notre vie, le goût de la sauterelle dans notre bouche. On retrouve à Tirelli, comme à Yuga, comme dans tous les villages de la falaise, la masse, la nuit, la masse de la falaise. Complètement noir, qui se détache sur le fond de la nuit, sans lune encore aujourd'hui, un peu moins sombre. Et Tirelli est un village beaucoup moins tordu, compliqué que Yuga, qui est caché dans des failles, dans des éboulis gigantesques. Tirelli aussi est un grand éboulis, mais peut-être c'est beaucoup moins un labyrinthe, c'est un village beaucoup plus ouvert sur la plaine. Et il y a juste au large du village, au pied du village, il y a un petit ruisseau qui est à sec en saison sèche en ce moment. Et au-delà de ce ruisseau, une grande dune de sable. Alors il paraît qu'il y a... Il y a deux, trois générations, cette dune n'était pas si importante et en tout cas n'était pas si désertique. On parle de forêts. On dit qu'autrefois, il y avait des forêts avec des singes au pied de la falaise. Et passé cette dune de sable, on trouve la grande plaine qui s'étend jusqu'au Burkina Faso sans plus aucun relief. Alors quand on se tient dans le haut du village, le regard peut passer au-dessus de la dune et on voit cette longue plaine qui se perd jusqu'à l'horizon, alors que dès qu'on est à mi-hauteur, on a cette vue extraordinaire sur la dune, mais elle barre le paysage et on ne voit que les différentes nuances de couleurs de sable. Par moments, il y a un peu de fer dans le sable, donc le sable est un peu rouge. Et à d'autres endroits, il est beaucoup plus clair et argenté la nuit.
J'ai posé une chaise devant le pas de ma porte ainsi qu'une petite table avec mon thé. Le mur de ma chambre dans mon dos me donne une belle ombre. Cette nuit sur le toit, sous des nuages bas, des souffles d'air chaud caressaient ma peau et m'ont fait penser. Cette nuit, c'est du liquide amniotique. Ai-je jamais passé une aussi belle nuit ? J'ai ouvert les yeux plusieurs fois, de courts instants, pour me féliciter de la couleur du ciel, pour me dire que rien n'était aussi délicieux que cette nuit. Hier, j'ai fait écouter un morceau de la techno que je compose à Bamako aux enfants de Gounod, après l'avoir fait écouter à Amaga. Ce matin, je l'écoute. La techno et le Sahel réunis, moi à l'ombre, la grande tache de lumière tout autour, le rythme qui tourne, le vent qui se lève et lève la poussière, vient poser des grains de sable sous la bille de mon bic. Devant moi, un enfant de 5 ou 6 ans danse sur le rythme qui filtre de mon casque. J'entends les enfants dire derrière la musique « L'an 2000, l'an 2000 !» J'ai rapporté de Taïwan un petit sachet en plastique argenté sur lequel est écrit 2000 contenant une pastille. En appuyant fort avec les doigts à l'endroit de la pastille, le sachet se met à gonfler et il explose. Il a explosé hier sur les genoux d'Amaga. La joie d'ici, c'est cela. Remplir le bas d'une page pendant qu'une toute petite fille, presque un bébé, tripote le haut de la page avec ses ongles rouges peints avec du mercurochrome ou du henné. Elle vient de disparaître sous la table. Ses mains et ses poignets pleins de bracelets en plastique reparaissent les premiers avec une pile qu'elle a ramassée dans la poussière. Le sachet éclaté de l'an 2000 oscille dans les courants d'air, chiffonné et poussiéreux. Les enfants l'ont utilisé pour rejouer la scène de l'explosion à d'autres qui ne l'avaient pas vue. Deux casseurs de pierres viennent de faire exploser à la poudre des rochers qu'ils foraient depuis 3 jours pour dégager le terrain où Gounod va construire une nouvelle case pour refermer sa cour. Toujours depuis ce matin, cette phrase « J'ai dormi dans du liquide amniotique ». Les nuits sont une récompense, une compensation à l'endurance des jours. On ne s'oublie pas, on ne s'évanouit pas dans le sommeil comme pendant les nuits d'Europe. Tout en se reposant, on reste conscient de ce qu'on vit. On est reçu dans un palais d'étoiles où la nuit, princesse, nous dit « Ça y est, vous y êtes ». Pour descendre de Sanga à Tirili, on marche pendant à peu près 2 heures sur le plateau. On arrive d'abord à Daga, petit village au bord de la falaise. Et à partir de Daga, on descend par tout un système de failles vers Tirili. La falaise fait entre 200 et 300 mètres de hauteur. Et Tirili, et les cases sont posées dans les éboulis.
au pied de la falaise. Amagré Dolo travaille depuis plusieurs semaines ici, avec les potières. On va aller les voir tout à l'heure. On peut considérer Sanga comme une petite ville, déjà. Sanga se trouve sur le plateau. Certains quartiers de Sanga, comme Gogoli, d'où vient Amagré Dolo, se trouvent juste au bord de la falaise. Et puis plus loin, on trouve des dizaines de villages dans la falaise. Yuga et Tireli font partie de la commune de Sanga, mais en sont éloignés de dizaines de kilomètres.
Oui, Sanga, c'est bien vrai, c'est une petite ville par rapport à l'importance de la tradition cosmogonique. Par rapport à Yuga, Sanga est une petite ville. Donc, tout naturellement, comme ça, c'est 4 ou 5 fois plus grand que les 3 Yugas réunis. Bon. Alors, c'est un lieu stratégique vraiment pour les Dogons Yugas. C'est l'origine de plusieurs choses. Le Sigi commence par là-bas. Les masques, ils y connaissent mieux que tous les autres Dogons parce que l'origine, c'est à Yuga aussi. Donc, c'est très stratégique pour les Dogons. Et comme géographiquement même, comme un truc, c'est un lieu vraiment très, très accidenté. Et il y a des masses de cailloux détachés de la montagne, déposés et sous lesquels l'architecture, ils l'ont fait, ou bien sous les cavernes, ou bien sur les cavernes, qui donnent vraiment une impressionnante situation. Et le regard, c'est, si tu vois, c'est autre chose. Alors, c'est un coin quand même. Tu rentres dans le village, tu regardes les choses. Intérieurement, tu sens que c'est un endroit hanté, un endroit très spirituel, un endroit où les gens, ils sont au fond de cette tradition.
Comment c'était les funérailles de Marcel Griot, la Sangha ?
Ah, les funérailles de Marcel Griot, la Sangha, chez nous, pour moi, c'est de bouche à oreille. Je n'ai pas vu. J'étais bébé. Très, très bébé. J'avais 2 ou 3 ans, pas plus. Alors, chacun peut raconter différemment. Mais c'est donc moi j'ai appris. On fait de la magie, surtout le daman. Et les masques échassiers qu'on appelle Tengadanga en Dogon qui montaient sur la terrasse. Comme ça, tu le vois en bas, d'un coup, tu le vois sur la terrasse. Il dansait sur la terrasse de son lieu de résidence, l'actuel hôtel au campement de Sanga. Et il y a eu tant de masques venant de partout. Et il y avait presque tous les 56 villages de Sanga, tous ceux qui étaient capables de venir faire quelque chose, ils étaient présents, paraît-il. Mais moi, je n'ai pas vu, on m'a raconté. C'était comme un vieux notable Dogon qui était mort. Ce n'était pas... C'est simple, le griol aimait bien les Dogons. Et les esprits Dogon étaient avec lui. Maintenant, les gens de Sanga connaissent quand même cette Jeterlen plus que les gens de Yuga, ça c'est clair. Ils la connaissent plus que les gens de Yuga, même si les gens de Yuga la connaissent peut-être que quelquefois comme ça, soit en excursion, soit en recherche, c'est tout. Sinon la base était à Sanga. Et si c'était à Sanga, elle vit beaucoup plus dans l'âme de Dogon de Sanga plus que ceux de Yuga parce qu'ils la connaissent beaucoup moins, ils l'ont vu beaucoup moins que les gens de Sanga. C'est comme toi et moi, plus on se voit, plus on se pénètre l'un et l'autre beaucoup plus. Et comme ça, ça devient presque, tu vois, uni. Et que ton problème, c'est mon problème. Mon problème, c'est ton problème. Donc, à Yuga, on ne peut pas sentir ça. Dans l'ensemble, c'est valable pour l'ensemble des choses. c'est ça. L'évolution, elle est nette, même dans la tradition, elle évolue. Ça, c'est clair. Mais il y a des côtés vraiment négatifs, vu par rapport à la tradition, à la cosmogonie, ça c'est l'existence ou la pénétration des autres religions, des autres croyances, telles que le christianisme et l'islam, en ce que je sache. Et puis, y a des villages où, à 100%, ils sont devenus pratiquants. Je ne sais pas s'ils le sont, mais ils sont devenus à 100%. Et ces choses-là, même le funérail, ça ne se fait plus parce que les gens se considèrent musulmans ou chrétiens. Ça ne se fait pas. Ils ne font pas. Mais intérieurement, quand même, je ne pense pas s'ils le sont. Mais beaucoup, quand même, regrettent d'avoir. Et c'est ça, avec le temps, ils ont senti que ce que nous, nos parents connaissaient, ou bien ce que nous, nous faisions, c'était aussi valable que ce que nous, on a pris comme meilleur truc. Donc ça arrive quand même à plusieurs personnes de réfléchir positivement dans ce sens. Est-ce que ça aura son effet? Je ne sais pas. Et précisément quand même, pas seulement Kasanga, là où il y a beaucoup de touristes, les jeunes qui sont là, qui vivent de ça, qui font le guide, un truc, ils sont conscients, ils savent bien que c'est à cause de cette différence d'architecture, de zone, de sa particularité avec les autres, que ce tourisme-là est là, et ce tourisme-là vient. Ce n'est pas à cause du temple ou bien de la mosquée que ces gens-là quittent là-bas pour venir vous voir. Ils sont conscients de ça. Et le plus souvent, c'est des enfants, des musulmans ou chrétiens qui ont abandonné leur religion au profit des autres, ce qu'ils savent, connaissent au profit des autres. Et ces enfants, ils sont contre ça. Si tu les interroges, ils ont le réglé. Comme quoi, pourquoi leurs parents ont choisi ça? Parce qu'ils savent. Et ils gagnent de l'argent. Ils font vivre les parents avec. Tu vois. Donc, peut-être que si nous luttons, préserver ces choses, je pense que ces choses-là vont diminuer parce que les gens, tout le monde, ils seront conscients de l'importance de la chose, même s'ils ne changent pas encore, qu'ils vont préserver, et c'est important. Plus on préserve, plus on a confiance, plus on croit, plus on a la forte chance de changer.
Quand on dit de chanter, souvent vous chantez. Pont du Nord, un bas de Dordogne, du Pont du Nord, un bas de Dordogne. Ça va pas. Il faut continuer avec la même intonation. Hein? Si y a le haut et le bas, ce n'est pas bon. Hein? Donc, à toi, 1, 2, 3.
Mon
Milieu de matinée à Tirelli avec Maïgere Dolo, Atimé et Emmanuel Sai. Tirelli est au pied de la falaise de Bandiagara, mais nous voyons une falaise, mais les gens d'ici ne voient pas une falaise. Ce sont des blocs de roches qui ont des noms différents.
Ah oui, ces blocs ont des noms différents, mais moi je viens un peu à peu près de 8 à 9 kilomètres de Sanga. Alors, si tu me demandes, moi je parle de l'ensemble, je dis la falaise de Tirelli. Sinon, si tu demandes un autochtone d'ici, il va dire que voilà, le bloc qui est là-bas, c'est tel nom, de l'autre côté, c'est tel nom. Donc, la différence des noms, c'est eux-mêmes qui savent faire cette différence. Alors, c'est la même chose pour quelqu'un qui vient de Bamako, ben, je sais. Lui, c'est l'ensemble. Il va dire que c'est la falaise de Bandiagara ou la falaise du pays d'Ogon. C'est ce qui fait que c'est un peu très dur de rentrer à l'intérieur des choses ici chez les Ogon. Pour savoir ça, il faut que moi je leur demande. Comme quoi, alors, cette montagne-là, un peu isolée là-bas, comment ça s'appelle? Ils le savent. Ils me disent, eh bien, il faut que je demande. Sinon, pour moi, je suis maintenant actuellement dans le village de Tirelli, au pied de la falaise de Tirelli.
Un verre de thé.
Merci. On t'est quand d'arrache, oui. Ah bon? Ça fait du bien, le thé.
Merci.
Et je vais expliquer un peu ce que ça veut dire Lébé. Le Lébé, c'est le premier hôtel sanctuaire des Dogons. Mais c'est depuis le Mandé. Donc, ils expliquent, ils sont venus avec un morceau de terre du cimetière du premier homme mort depuis le Mandé, et ils ont pris un morceau d'os de là où il a enterré, et il a été enterré de ce cimetière, et ils sont venus avec ça jusque-là au pays d'Ogon. Et alors, d'après traditionnellement, de bouche à oreille, on nous dit que c'était le guide aussi, le chemin. Alors ils n'ont pas suivi un chemin tout droit pour venir. Donc il y avait un système de serpents mythiques devant eux qui les accompagnaient jusque-là, sur le plateau et au bord des falaises. Bon, maintenant arrivé ici, alors c'est comme Mandé, leur origine est là, ici. Et en même temps, ce n'était pas, ils étaient guidés de terre et de ciel. Et le ciel, c'était un oiseau qu'ils appelaient, donc je ne me souviens pas du nom, qui était là, planait devant eux. Chaque fois qu'il commençait, qu'il devrait quitter un site pour un autre, parce qu'ils ont fait une migration petit à petit. Ça a duré plus d'un siècle d'immigration. Bon, alors, et de là maintenant, et le représentant de cette chose, c'était quoi? C'est sur Terre, c'est quoi? C'est le lézard, d'où la représentation du masque Kananga. Alors maintenant, c'est pour cela, il y a deux explications. Ils disent que le Kananga, c'est la terre et le ciel, qui ressemble à la croix de Lorraine, la première base qui représente la terre. Et maintenant, il y a les deux bras en bas, deux bras en haut, et les bras d'en haut qui représentent le ciel. Maintenant, ces deux réunis à l'animal qui ressemble, ça c'est le lézard. Donc c'est pour cela que le Kananga est représenté de cette manière dans la société des masques. Alors, arrivé là, maintenant, avec ici sur le plateau, la petite terre qu'ils ont amenée, et ils ont fait de ça un hôtel sanctuaire lié à une personne qu'on appelle le chef spirituel, qu'on appelle Ogon. Donc le Ogon est spirituel. Et maintenant, considéré, guidé par le premier ancêtre mort transformé en serpent, Et une des causes qui fait que le Ogon, une fois que tu es Ogon, tu es pur, tu es différent des autres. Et tu n'as pas besoin de prendre un seau d'eau pour aller te laver. Et c'est ce serpent mythique qui vient te lécher dès que tu es sale. Et alors, il est toujours propre. Et les gens se posent, comment est-ce qu'il est propre? Mais il est léché par ce serpent mythique. Voilà, c'est ce que ça veut dire, l'ébé. L'ébé, c'est la terre du premier ancêtre mort prise à l'origine, au Mandé, jusqu'ici, à la falaise. Pour être Ogon, il faut être le premier, le plus âgé de la tribu. Donc, tu es considéré comme le premier ancêtre vivant. Donc, c'est proche du premier ancêtre mort. C'est ça, l'ébé.
Quand on croise le Ogon aujourd'hui dans le village, est-ce qu'on peut se représenter ce monsieur léché par le serpent lébé, ou alors est-ce qu'on le sait sans pouvoir se le représenter? On le sait sur un plan symbolique.
Ouais, je pense que c'est beaucoup plus proche, c'est sur le plan symbolique qu'on le connaît. Ben, il y a quelquefois exception. On ne voit jamais le Ogon léché par ce serpent. Mais on peut voir ce serpent aux alentours de ces choses, ce serpent. Et ce n'est pas n'importe qui le voit. Le serpent est là, posé. Nous sommes deux ou quatre. Moi, je peux voir, mais toi, tu n'as pas la capacité de voir ça. Alors, j'avais appris il n'y a pas tellement longtemps sur la route entre Ogol du haut et Ogol du bas. Il y avait quelqu'un qui était monté de passage sur une moto. D'ailleurs, même la couleur, la texture, c'est comme la texture de couverture de mort. C'est une différence. Et ici, tu vois un serpent comme ça, ça veut dire que c'est le lébé que tu as tué. Ça veut dire que quelqu'un l'avait tué, quoi, à moto, quoi. Et ça, c'est un message. Par exemple, c'est sans doute un malheur qui arrivera à la famille de ce truc. Et maintenant, si tu es de la tribu de Djongon, ce serpent, on le prend, on l'enterre comme une personne. Bon. Maintenant, mais c'est spirituel, c'est différent des autres serpents tout naturels. Mais ça existe. Et je suis sûr que ça existe. Pas une seule personne qui en parle, pas deux personnes qui en parlent. Ça, le serpent existe. Ça, c'est clair. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire « Ah, moi, j'ai vu le serpent lébé en train de lécher le Ogon. » Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. Mais le lébé existe, ça, c'est sûr.